toutes et à tous, je suis Clémence, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode d'Un Poil du X, en direct de l'agence La Grande Ours. Aujourd'hui, nous accueillons Laura Eve Lopez, UX designer senior chez Ubisoft. Je te laisserai te présenter. Le sujet de cet épisode concerne l'interculturalité et l'UX design. On va essayer de comprendre cette notion et voir ce qu'elle implique. On va voir plein de choses ensemble et c'est pour ça, merci beaucoup Laura d'avoir accepté de partager tes expériences avec nous. Alors avant tout Laura, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ?
Bonjour Clémence, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Laura Lopez, je suis donc UX designer chez Ubisoft. Ça fait 2 ans que je travaille là-bas sur le projet Just Dance. Je travaille sur l'interface du jeu, mais aussi toute l'expérience d'un point de vue plus global. On est une équipe à peu près de 5 personnes qui travaillent avec des expertises assez différentes chacun et on se complète plutôt pas mal. Avant ça, j'ai travaillé 6 ans chez BNP Paribas sur des applications à destination de collaborateurs, donc en interne. Je ne travaille pas sur toutes les applications, ma banque, etc. Me tapez pas dessus. et je suis aussi vacataire à l'université de Paris-Sorbonne depuis 5 ans sur tous les sujets d'interculturalité dans le design.
Ok, super. Merci beaucoup de t'être présentée, Laura. Pour débuter du coup ce podcast, je te propose d'expliquer ce qu'est l'interculturalité finalement dans le design, selon toi.
D'accord. L'interculturalité, c'est l'utilisation en fait de spécificités culturelles d'un groupe afin d'adapter un projet à une culture. On va prendre un exemple. Tu as déjà vu des couvertures du livre Harry Potter.
Oui.
On connaît surtout les Françaises. Si on était français, en fait, quand on a découvert Harry Potter, il faut savoir que chaque pays a sa représentation. C'est d'autant plus vrai avant la sortie des films, d'ailleurs. Et par exemple, en Italie, sur la pochette du livre, tu vas voir Harry Potter devant un échiquier avec des souris. Il aura d'ailleurs un chapeau de souris. On ne comprend pas forcément de notre point de vue. Et côté japonais, tu vas avoir un Harry et un Hagrid dans le chemin de traverse, il me semble, mais sous un style Ghibli.
Okay.
Donc chaque pays a sa représentation. Ça donne une petite idée hors UX traditionnel dans le design des sites web. Tu as aussi un peu plus près de ma zone d'expertise dans le jeu vidéo, tu as les jaquettes de jeux vidéo. Si tu prends le personnage Kirby, au Japon, il va toujours être hyper joyeux, hyper friendly, alors que quand tu regardes côté États-Unis, Amérique, il va être hyper en colère. Il n'y a rien d'autre qui change sur la jaquette, sauf son expression faciale entre les deux cultures. Voilà. Tu as dans certains jeux des éléments où ça va aller plus loin, tel que le jeu qui s'appelle Nier, où là, ils vont changer le personnage principal. On va passer d'un jeune qui va être la sœur d'une autre protagoniste, à un papa. Et donc, en fait, même physiquement, ils vont changer. Le jeune va être plutôt fin, un peu androgyne. Donc là, on est plus sur le côté japonais. Et aux États-Unis, on va avoir un papa hyper musclé, hyper fort. Voilà. Il y a des choses qui vont changer aussi au niveau de l'histoire, de la jaquette, du sound design, voilà, plein de choses. Le plus souvent, tu vas adapter la loca. La loca, c'est tout ce qui est la traduction, en fait, de ton jeu. Et donc, tu vas avoir... on va traduire donc les jeux de mots, par exemple. Tu ne vas pas traduire littéralement « It's raining cats and dogs ». En français, ça n'aura aucun sens. Du coup, tu vas le traduire plus « Il pleut des cordes ». Après, tu vas avoir aussi des phrases plus qui vont être entièrement changées. Le contexte va entièrement être changé. Notamment des phrases à connotation sexiste. Parce que du coup, côté Occident, ce sont des choses qui ne passent plus aujourd'hui, mais qui passent toujours côté Orient. Et donc, j'ai un exemple assez parlant sur le jeu Fire Emblem Engage, où là, il y a 2 personnages féminins qui échangent des informations. Côté Orient, vont faire la lessive en disant que c'est assez attrayant, que faire les tâches ménagères, ça va augmenter l'attractivité, ça va parler de sous-vêtements. Alors que côté Occident, en fait, elles vont juste faire la lessive, il ne va pas du tout y avoir de connotation quelconque, et elles vont parler de sous-vêtements, mais plutôt de manière implicite. Par contre, il y a un point important sur l'interculturalité, c'est que le design culturel, ça ne porte pas de jugement de valeur. On ne va pas dire ce qui est bien, ce qui est mal. Et une culture n'est pas meilleure que l'autre. On va juste les comparer pour comprendre leurs spécificités.
Oui, tu vas juste retranscrire finalement une culture dans une interface, ou en tout cas que ce soit physique finalement ou numérique.
C'est ça. Le design culturel, il va être aussi présent dans les échanges. Je travaille par exemple avec la Chine, avec l'Inde, avec le Canada. Du coup, en fait, la relation de travail, elle n'est pas la même. Un exemple, un oui n'a pas du tout la même valeur en fonction de la culture avec laquelle tu vas travailler. Parfois, ça va être juste un oui d'acceptation ou d'alignement, mais parfois, c'est juste un oui qui va cacher une incompréhension. Et là, en fait, là, pose le problème culturel et c'est à toi, du coup, de dire, bah, attends, est-ce qu'ils ont vraiment compris? On va les creuser, on va leur poser des questions pour vérifier si on est vraiment bien aligné.
Ok, c'est super clair, en tout cas, ce que c'est l'interculturalité. C'est bien parce que tu as donné pas mal d'exemples, que ce soit du coup numérique ou physique. Et du coup, selon toi, c'est quoi les bénéfices d'avoir cette approche interculturalité?
Si on intègre les spécificités culturelles, on va avoir une intégration plus simple dans le quotidien des utilisateurs. Ça va être beaucoup plus simple d'adopter le produit parce qu'elles vont reprendre en fait des marqueurs culturels qu'ils connaissent. Et donc, quand on connaît quelque chose, on a l'habitude du coup de l'utiliser plus facilement.
Très clair. Avec tout ce que tu nous expliques, est-ce que tu aurais un exemple finalement concret de projet où l'interculturalité, ça a été un défi pour toi dans un projet justement du UX design?
Alors oui, j'ai des projets, mais il y a certains éléments que je ne peux pas parler. Par contre, je n'ai pas vraiment un gros projet où ça a été vraiment un défi parce que l'interculturalité, c'est un peu comme l'accessibilité. Et du coup, tu vas en semer un petit peu partout dans ton site web. Là, c'est à peu près le même principe. Sachant qu'en plus, il est hyper complexe de produire un produit unique qui convienne à tous. On va effectivement utiliser plus des petites touches. Et dans mon quotidien, au niveau du jeu vidéo, on va avoir plus un sujet entre l'Orient et l'Occident. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments de marqueurs culturels qui vont différer, tels que côté Occident, on est plus individualiste, alors que côté Orient, on est plus au niveau collectivisme. En fait, en tout cas, le groupe fait force de proposition. Et du coup, en fait, on va avoir des effets sur notamment les ventes de jeux, par exemple, ou sur comment les gens vont consommer le jeu. Le seul exemple un peu à la marge, c'est World of Warcraft, qui pour lui, c'est peut-être le seul jeu qui a été créé côté Occident et qui a aussi bien marché côté Orient, voire mieux marché côté Orient, parce que le jeu est consommé aussi d'une manière différente. D'un point de vue macro, tu peux aussi avoir des différences Orient-Occident sur la machine d'utilisation. En jeu vidéo, en tout cas, on va plus utiliser les PC et les consoles côté Occident et côté Orient, plus sur le jeu mobile. On va avoir, comme je l'ai dit, des petites touches qui peuvent être, par exemple, dans les années 80, il y a un jeu qui est sorti aux États-Unis, ça s'appelait Contra Santé, pour faire une image, c'est un Arnold Schwarzenegger qui va aller tuer d'autres humains. Voilà.
Ok.
C'était un jeu hyper violent pour l'époque. Et du coup, côté Europe, donc là on est États-Unis, Europe, on a dit c'est beaucoup trop violent pour notre population. On va changer et le personnage principal et les ennemis. Donc tout le monde sont devenus des robots. Et on va aussi changer le nom du jeu. C'est-à-dire qu'on est passé de Contra côté américain à Probotector. Rien à voir. Et tu vois même dans le nom Probotector, il y a une notion de protection qui n'existe pas du tout dans la version américaine. Voilà. Dans d'autres cas, ça peut des choix design par rapport à l'histoire. C'est un jeu qui s'appelle Wolfenstein. Dans Wolfenstein, hors Allemagne, l'ennemi, c'est Hitler.
Mmh. Voilà.
Tu vas retrouver tous les symboles hitlériens, du Troisième Reich. En Allemagne, tous les symboles ont été changés. Et ce n'est pas Hitler que tu vas avoir comme ennemi. Ils vont avoir un nom différent et ils vont même avoir changé le design du personnage en lui enlevant juste la petite moustache qui est caractéristique du personnage.
Oui. Okay. Voilà.
Après, tu as aussi des adaptations au niveau compliance. ce qu'on appelle la compliance. Donc, en fait, ce sont les règles qui sont données par les organismes tels que Nintendo, Sony, PlayStation et ou des pays, ce qui est possible aussi. Et on a un exemple côté Ubisoft où tu as le dernier, un des South Park qu'on a développé qui a été publié du coup en Australie. Et en Australie, il y a une scène où il n'y a rien de, comment dire, de choquant, entre guillemets, pour nous. Quand on regarde, c'est un petit garçon qui doit péter pour déverrouiller quelque chose. En Australie, c'est pas passé. Et en fait, ils ont coupé la scène côté jeux vidéo. Sauf que, bah, il fallait la remplacer par quelque chose. Ça coûte très cher une production. Ça a été remplacé par un écran de koala. Voilà, en disant, on ne peut pas vous montrer cette scène.
Donc, ils ont trouvé un petit peu un subterfuge pour adapter du coup la culture finalement au pays vraiment qui était destiné à
le jeu, ouais, le plus jeu. L'adaptation du jeu pour le pays sans que ça coûte extrêmement cher comme tout le changement des ennemis, des noms ou même du scénario, quoi.
Ok, donc du coup de ce que je comprends, de ce que tu viens de nous expliquer, c'est qu'effectivement c'est un peu comme l'accessibilité, on n'a pas un process vraiment qu'on va suivre à la lettre, ça va plus être par petites touches. Et de manière générale, du coup, comment tu l'intègres finalement cette diversité culturelle, toi, dans ton processus en fait de conception, dans l'expérience utilisateur ?
La grosse différence, mais pas tant que ça en fait, c'est dans la partie de recherche. On va avoir vraiment sur cette partie un élément différent, c'est que bah, du coup, comme pour des personas, on va aller chercher quelles sont les cultures prioritaires, secondaires et celles qu'on ne va pas adresser. Là-dedans, je mets pas mal des dimensions culturelles d'Oftede, qui est un chercheur qui a fait des études chez IBM et qui a sorti pas mal de papiers là-dessus. Et il y a toute une théorie qui est sortie là-dedans. Et donc, en fait, ça permet d'avoir une première base de vision sur les éléments et les différences, les similitudes sur ces cultures. Et ensuite, je choisis plusieurs sites qui vont avoir le même objectif que mon projet pour pouvoir les étudier et voir plus en profondeur en fait comment ces différences culturelles ou ces similitudes vont s'appliquer au niveau des sites web. Le plus important, c'est que je mets le site web dans sa langue. C'est-à-dire que si c'est en chinois, je vais regarder le site en chinois et je vais traduire le site ensuite. Je ne vais pas mettre un .fr ou...
Traduire avant pour refaire après la même.
C'est ça. Parce qu'en fait, non, la problématique, c'est que si tu traduis le site, tu mets un .fr, ça va potentiellement te changer toute la mise en page de la page et c'est pas ce qu'on recherche. Ensuite, bah, du coup, voilà, je vais regarder ces sites-là, je vais trouver les similitudes, les différences, je vais en sortir ce qu'on appelle des marqueurs culturels qu'on va utiliser ensuite dans le projet. Les autres phases sont sensiblement identiques, si ce n'est que lors de tests utilisateurs, on va choisir en fait un panel ayant une culture correspondante aux cultures, en tout cas, qu'on souhaite adresser dans notre projet.
Ok, ça marche. On vient de parler de la phase du coup de recherche et pour la phase du coup de conception, comment ça se passe ? Est-ce qu'on crée du coup des visuels ou des contenus qui sont pas du coup spécifiques à une culture, mais qui restent quand même pertinentes ou attractives pour un public, on va dire, mondial ?
Alors, faut savoir à la base que convenir à tous, ça n'existe pas. On peut avoir une base commune et adapter certains éléments. C'est ce que font beaucoup de sites en fait aujourd'hui. Du coup, on va utiliser les points communs qu'on va avoir retrouvés dans la phase de recherche pour créer cette base et en fait les différences pour les adaptations. Et on va adapter aussi bien sûr du coup en fonction de la langue de notre utilisateur. Comme exemple que je pourrais te donner, ça pourrait être une adaptation assez légère sur une photo. Au niveau collectivisme, individualisme, si on a une différence au niveau de cette dimension culturelle-là. Un exemple récent, c'est Kellogg's, où sur une photo côté occident, tu vas avoir une ferme américaine avec le blé, enfin pour représenter toute la... Voilà, c'est végétal, c'est bien pour le corps, pour vos enfants. Et côté collectivisme, tu vas avoir en fait une maman avec son fils à table avec la boîte de Kellogg's devant. Pour faire voir qu'en fait, voilà, ça réunit les familles, de partager un élément ensemble, ce genre de choses.
Et du coup, comment tu prends en considération les différences, justement, comme tu viens nous l'expliquer très rapidement, les couleurs, les symboles dans différentes cultures ?
Côté symboles et couleurs, en fait, bah, de la même manière que le reste, une fois qu'on va avoir étudié les sites, on va s'en servir pour voir en fait les éléments, ces marqueurs culturels, et on va regarder notamment couleurs et symboles. Parce que les couleurs, il faut faire hyper attention, parce que effectivement, chaque pays a sa définition, sa signification de la couleur, mais aussi cette signification va dépendre de l'époque. Pour un site web, normalement, design pour l'instant T, donc ça va. Mais pour donner quelques exemples, le vert, hein, il y a encore quelques, enfin, une cinquantaine d'années, voire un peu plus, on était plus sur une signification de vol. Voilà. On volait quelque chose. Donc, okay. Quelque chose d'assez négatif, en fait, finalement. Aujourd'hui, tout ce qui est vert a une certaine connotation biologique, naturelle.
Bio, ce genre de choses.
C'est ça. Ce qui pourrait avoir des impacts énormes, en fait, quand on va créer un logo. Autre exemple, du coup, là, plus sur, à l'heure actuelle, comment ça se passe. Le blanc, en France, c'est tout ce qui est épais, c'est neutre. En Égypte, en Chine, ça représente le deuil, la mort. Donc, on ne va pas aller faire un site web pour les mariages en Europe noir et blanc en Asie ou en Égypte. Autre point, au niveau des symboles, j'en ai découvert un ce matin qui m'a beaucoup étonnée. J'en ai déjà parlé du symbole like, qui pourrait avoir une connotation de doigt d'honneur dans certains pays. Mais j'ai découvert aussi que le dislike au Japon, ça voulait dire « va en enfer ».
Ah oui, ok. Voilà. C'est important.
Ouais, c'est quand même hyper important, parce que bah, ça pourrait créer des gros soucis. Et notamment, bah, j'ai vu, hein, être avec cet article-là aussi, pendant les JO en Chine, bah, du coup, ça avait une énorme importance, parce qu'on va réunir plein de pays, plein de cultures différentes au même endroit, et il va falloir qu'elles se retrouvent
chacune
dans la ville.
Ouais.
Et bah, je pense que c'est un peu d'actualité.
Oui.
Il va falloir qu'on fasse, nous aussi, français, attention à ça. Parce que déjà, nous, Français, on a déjà du mal à se retrouver dans le coin. Mais je pense que ça va être aussi un des défis
Pour les
UX designers. J'espère qu'ils en ont.
Oui,
pour
j'espère.
Pour pouvoir travailler là-dessus.
Hyper clair. Du coup, on a parlé donc, de la phase de recherche, un peu de la phase de conception. Est-ce que, bah, pareil, pour la phase de test, comment tu arrives à mesurer finalement l'efficacité de ton interface, justement en fonction des contextes variés?
Même principe que pour un projet classique. La seule différence, ou en tout cas le seul point d'attention, c'est surtout que lors des recrutements, il faudra se pencher sur les origines culturelles de nos testeurs, que ce soit des origines, on va dire, directes, donc au premier degré, ou des parents, des grands-parents. Parce que, on le sait, la famille a un impact sur les enfants, sur les petits-enfants, et donc sur la culture. C'est à peu près la seule différence. Comme tout projet, en fait, on va tester son utilisabilité et faire attention à tout ce qui est problème d'interaction et d'interprétation, surtout la partie interprétation.
Ok. Est-ce que quand même, tu as des critères ou des indicateurs que tu utilises pour évaluer si tu as une interface utilisateur adaptée ou efficace, justement pour un groupe d'utilisateurs qui va être spécifique?
J'ai parlé tout à l'heure d'Oftode. Il a créé un site. Il y a tout en fait un catalogue d'éléments, et notamment donc ces critères de dimension culturelle. Donc je me sers de ces éléments-là de base, et après, quand je vais étudier un corpus de site, il va y avoir tout ce qu'on appelle le tracé de mise en page. Est-ce que je vais avoir plus d'images que de textes? Le contenu de ces images-là, est-ce qu'elles ont une symbolique particulière? Est-ce qu'on voit une différence sur le nombre de personnes dans ces images? L'utilisation des couleurs, la façon dont l'entreprise va communiquer sur ce site aussi. Voilà, les symboles, bien sûr, enfin, globalement, tous ces éléments-là auxquels je vais prêter attention.
Et est-ce que tu aurais des ressources ou des outils, en tout cas, à nous partager que tu utilises pour rester informé des tendances, des particularités culturelles dans tes recherches?
Alors, j'utilise pas mal de réseaux sociaux, ne serait-ce que déjà au niveau UX Design, donc Twitter, LinkedIn, Medium, ça aide beaucoup. Pour la partie culturelle, ça va être un peu étonnant, mais j'utilise tous les sites de fast-food parce que, bah, en fait, ils ont une grosse intégration culturelle au niveau de leur site web, mais aussi de leur menu de nourriture. On peut retrouver une soupe traditionnelle au Portugal, par exemple, dans les menus. Je sais qu'en Chine et au Japon, c'est pareil, on va retrouver des sortes de burgers avec du riz, ce qui est assez étonnant, en fait, oui, de notre point de vue à nous. Et en fait, dans leur site web, ils vont énormément s'adapter. Exemple, McDo, il y a eu une avant McDo, il y a 20 ans, tous les sites étaient rouges. Mmh. Le logo était, oui, rouge, on était sur du rouge et du jaune. Voilà. Là, ils ont opéré une transition pour essayer de passer un peu plus green aux yeux de tout le monde aussi. C'est pas le cas en Chine. En Chine, on aurait changé la couleur rouge. Il y aurait peut-être crime de lèse-majesté parce que bah, ça représente tellement pour les Chinois cette couleur, mmh, que ça aurait été très compliqué de la changer. Autre point, si on regarde un site chinois de fast-food, McDo, il va y avoir des promos partout. Ce qui n'est pas forcément le cas chez nous, oui, même s'il y en a quelques-uns, mais la promo va être extrêmement présente, ça va flasher, ça va aller vraiment aux yeux de l'utilisateur. Et tu ne vas pas avoir la même consommation aussi du fast-food comme nous. J'ai vu il n'y a pas longtemps que le KFC, par exemple, c'était le repas de fête.
Oui.
Voilà. Oui, donc, ne serait-ce que la façon dont tu vas commander aussi ton repas est différent, vu que tu vas tout mettre au centre de la table. Et tout le monde va plus ou moins partager en fait chaque plat. Chez nous, on va reprendre une phrase de Friends, jouer, pas partager.
C'est voilà. Exactement ça.
C'est le même principe. On a une grosse différence là-dessus. La seule exception que je dirais au niveau, il faut faire attention au niveau des ressources, c'est le luxe. Le luxe, c'est une culture vraiment à part entière. Il y a une culture du luxe et on verra en tout cas. Enfin. Si vous regardez des sites de luxe, tu le verras, il y a vraiment une façon de penser différente et tous se ressemblent plus ou moins entre eux, mais ne vont pas s'adapter à la culture.
Ok, donc c'est finalement plus le pays, la tendance, c'est ça plutôt qu'on va représenter dans
le luxe. Non, ça va vraiment être une culture du luxe à part entière.
Ouais, okay.
Ça va être une standardisation des éléments, mais d'une qualité supérieure. C'est vraiment en fait le fait d'être au-dessus de tout ça. On est une culture à part entière. Et puis, je me sers aussi pas mal de séries. Aussi étonnant que ça puisse être.
Okay.
Ça aide beaucoup. En ce moment, bah, j'avais un projet qui s'est arrêté, mais sur la culture asiatique. Et j'en connais certains points, mais je voulais m'intéresser un peu plus. Donc, j'ai regardé pas mal de séries coréennes sur ne serait-ce que la communication entre les personnes, qui n'a rien à voir
complètement
chez nous, malgré le fait qu'on va dire ça comme ça, mais une cohabitation américaine pendant très longtemps, ils ont quand même gardé une culture différente, une variation en tout cas, que ce soit de la version américaine ou de la version peut-être coréenne avant la cohabitation.
Comment du coup tu envisages peut-être l'évolution finalement de Louise Design pour l'intégrer de manière un peu plus poussée et naturelle finalement dans la diversité culturelle à l'avenir?
Alors au début, je t'aurais dit que je le voyais de manière un peu plus pessimiste parce que on était sur un mood de mondialisation, une sorte de lissage culturel. Et puis surtout, ça a un coût, on va pas se mentir. Mais depuis quelques temps, en fait, on va avoir une sorte de revendication de ses spécificités, une sorte de fierté d'annoncer voilà, c'est ma culture, c'est mon pays. Et du coup, ça va être beaucoup plus facile à faire passer. Parce qu'il y a des enjeux marketing derrière aussi. Donc le coût va être un peu moins un poids, en tout cas, dans l'utilisation de design culturel, dans la création de sites. Et c'est toujours plus facile de demander et d'obtenir quelque chose si on sait que ça va nous rapporter un peu plus. Donc je dirais que c'est en bonne voie.
Mais qu'on a encore un peu de travail.
Bien
peut-être.
Qu'on a du travail, même s'il ne faut pas qu'on complexifie en fait, tous nos designs derrière. Il faut que... Moi, je suis persuadée qu'on peut avoir une base commune et avoir des spécificités en fonction de la langue, mais il ne faut pas qu'on se rajoute un travail non plus énorme.
Supplémentaire.
Voilà. Parce que, de toute façon, il faudrait des spécialistes de toutes les cultures aussi. Donc, voilà.
Super, merci beaucoup. Avant de nous quitter, est-ce que tu aurais justement aussi un livre ou un article pour nos auditeurs sur l'interculturalité, ceux qui s'intéressent peut-être un peu à ce sujet?
J'en ai quelques-uns. Je conseille d'aller lire effectivement les dimensions culturelles d'Oftede. Il y a pas mal d'articles. Enfin, ils ont déjà un site web où on peut se servir aussi de base pour les études, mais ne serait-ce que pour l'information, ils ont un site web. Il y a du contenu sur Medium d'adaptation du design à la culture, enfin en fonction de la culture. En ce moment, je suis en train de lire une thèse. Je suis pas sûre, c'est peut-être un peu trop poussé, mais si certains sont intéressé, c'est la chaîne de valeur dans l'industrie asiatique des jeux en ligne. C'est le cas de Taïwan qui est fait par Chen Lei Shi. Et sinon, en fait, tout ce qui est articles un peu plus accessibles, il y a Marcus Aron et Emily Gould qui ont publié dans les années 2000, donc ça date un petit peu, mais c'est encore d'actualité, une sorte d'article qui s'appelle Cultural Dimension and Global Web User Interface Design, qui va en fait appliquer les dimensions culturelles à du design web.
Ok, ça effectivement, ça peut être intéressant.
Après, tu as l'impact de la culture sur l'iconographie que tu peux avoir dans Drew, qui est pas mal.
Super, merci beaucoup, c'est noté. Merci Laura d'avoir été avec nous.
Merci Clémence.
Avec grand plaisir. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode de podcast Un poil du X à la Grande Ourse. N'hésitez pas à vous abonner, à réagir et à partager le lien de cet épisode sur vos réseaux. Vous pouvez également retrouver de nombreux articles traitant de product design et plein d'autres sujets sur notre site lagrandeourse.design dans la section blog. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode d'Un poil du X.